chemin de traverse.
Bonjour à tous, je suis Luc Alcazo et bienvenue dans Chemin de traverse. Dans cette émission, nous invitons des associations, des chercheurs ou des personnes comme vous et moi, mais qui proposent des alternatives au statu quo de la société. Ils nous emmènent avec eux dans leur chemin de traverse pour penser autrement le monde dans lequel on vit. Pour ce troisième épisode, nous avons rencontré Romain Delcombel, créateur de la start-up BioAZ, son chemin de traverse. Il s'est donné l'objectif de trouver une alternative à la castration des porcs qui se fait à vif encore en 2024. L'anesthésie avant castration est obligatoire depuis seulement 2 ans en France et en Allemagne, mais de nombreux pays européens ne la pratiquent toujours pas, d'où le travail de recherche du Périgordin. Bonne écoute. Et bonjour Romain.
Bonjour Luc.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ce projet et d'où il part ?
BioAZ, oui, en effet, c'est une start-up, c'est ce qu'on appelle une biotech spécialisée dans le développement de médicaments vétérinaires, innovants, biologiques, biodégradables, vraiment des médicaments dans l'air du temps. Et notre premier objectif, toujours dans essayer de participer à l'amélioration de la condition animale, c'est une alternative à la castration des porcelets, qui pourra être étendue à terme à la castration des animaux de compagnie. Et l'idée, c'est de remplacer quelque chose qui est aujourd'hui pas très acceptable, qui n'est pas du tout d'ailleurs pour l'animal, mais qui se fait encore, qui est une castration à vif, sans anesthésie, sans analgésie, des porcelets à la naissance, pour garantir une bonne qualité de la viande.
Donc en France, pour l'instant, la castration sans anesthésie est interdite, donc depuis le 2022, c'est ça ?
Ouais, la castration, elle est interdite en France depuis le 1er janvier 2022. C'est la même chose en Allemagne depuis 2021 et d'autres pays en Europe comme les Pays-Bas, le Danemark, et ça devrait être étendu au tout le reste de l'Europe dans les prochaines années. Et après, on espère aussi les États-Unis et les pays développés, en voie de développement, tous les pays qui utilisent des porcs, en général, castrent les mâles pour éviter cette odeur de la viande.
Avant de rentrer plus dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où part le projet, pourquoi ça vous est venu à l'idée de développer cette technologie ?
Alors, donc moi, je suis vétérinaire de formation et quand j'ai dû présenter un master à la fin de mes études, on m'a demandé déjà de travailler sur le sujet, cette fameuse odeur de vera, donc l'odeur de la viande des mâles qui sont non castrés, sous une approche alimentaire. Et après, j'ai fait de la recherche dans plein de domaines et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé chez Seva Santé Animal, qui est le leader français du médicament vétérinaire, j'avais déjà commencé à approcher le sujet et je voulais le faire d'une manière très très innovante et c'était un peu compliqué à faire dans une grosse structure, d'où l'idée de le faire, j'ai envie de dire, par moi-même et d'une nouvelle façon avec d'autres partenaires et de partir à zéro avec seulement une idée. Et aujourd'hui, on est un peu plus loin que l'idée puisqu'on a montré que ça marchait même chez les animaux maintenant. On a un petit essai chez l'animal, on montre que ça marche. Il y a encore beaucoup de développement à faire, mais on est sur la bonne voie, on est parti de rien, et aujourd'hui, on a déjà des preuves que le concept est bon.
Donc, justement, vous parliez de l'odeur du vera. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la problématique et le mécanisme de cette odeur-là ?
Bon, c'est toujours un sujet assez compliqué à expliquer, mais en fait, le vera, donc, c'est le mâle cochon, qui n'est pas castré. Quand, en fait, le mâle, si vous voulez, il a des testicules qui produisent des hormones, et ces hormones, elles se stockent dans la viande, et quand le consommateur chauffe la viande, ça dégage une odeur désagréable. Donc pour éviter ça, c'est connu vraiment depuis le Moyen-Âge, on évite d'avoir des mâles dits entiers, d'éviter d'avoir des veras, et donc on castre les animaux à la naissance. Et de préférence, on le fait sans anesthésie pour pas que ça coûte cher à l'éleveur.
Et donc vous, votre projet est de donc remplacer la castration à vif par une injection, c'est ça ?
Ouais, l'idée c'est de remplacer, de ne plus toucher aux testicules, mais d'utiliser un produit biologique, biodégradable, qui va s'injecter au porc sans lui faire mal, et qui va mettre au repos les testicules. Et les testicules ne produiront plus d'hormones, et donc il n'y aura plus cette odeur de vera.
Où en sont vos recherches 2 ans après ? Vous disiez juste avant que ça commence à fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu où vous en êtes ?
Du coup, on a démarré ce projet en 2021, en amont de la création de la société qui a eu lieu en 2022, mais on a vraiment avancé sur le concept. On a développé ce qu'on appelle les immunothérapies. On a plusieurs plusieurs candidats. Et on a testé un candidat qui ne va pas être le futur médicament, mais qui semble fonctionner dans un essai chez le chien. On a des résultats préliminaires très encourageants. Évidemment, ça ne sera pas le futur médicament. Il faudra changer la molécule, mais aujourd'hui, on est toujours plus proche d'y arriver, et toujours plus proche d'un vrai médicament.
J'ai vu que vous aviez reçu un prix de l'économie Néo-Aquitain 2023. Il y a forcément une dotation qui va avec. Comment vous financez votre projet?
Donc ça, c'était juste une reconnaissance pour le projet. C'était un prix dédié aux startups en Dordogne. Mais en fait, on a eu de nombreux prix et de nombreux soutiens, notamment du gouvernement à travers la BPI et de la région Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, on finance en partie avec des fonds publics, nos propres fonds et des fonds privés. Et donc, on a fait une première, ce qu'on appelle une levée de fonds en start-up. On a trouvé des nouveaux actionnaires. Et ces nouveaux actionnaires nous encouragent dans nos développements. Et c'est eux qui nous ont permis d'atteindre cette étape-là et d'atteindre encore une nouvelle étape qui va être de tester chez le cochon dès cet été.
Au niveau des... Il existe déjà un vaccin développé par une entreprise américaine. Quel problème pose-t-il au niveau de l'inefficacité, de la dépendance du marché peut-être américain aussi?
Alors, au niveau efficacité, donc c'est un vaccin, il arrive qu'il ait quelquefois des problèmes sur certains ports, mais c'est très rare, il a une très bonne efficacité. Les principaux problèmes viennent plutôt d'un rejet de ce produit par les éleveurs avec la peur de se stériliser. En fait, la cible est la même chez l'homme et chez le porc de ce vaccin. Et en fait, nous, on a développé une technologie qui n'est pas dangereuse pour l'homme. C'est-à-dire que le produit va être... si l'homme venait à s'auto-injecter, il serait éliminé très rapidement du corps de l'homme alors qu'il va être maintenu dans le corps du porc. Et l'autre aspect, en effet, vous l'avez mentionné, c'est l'aspect monopole. Et le risque de dépendre d'un produit qui pourrait tomber en rupture, ça bloque certains éleveurs. Alors il faut qu'il y ait plusieurs produits qui arrivent sur le marché, et il faut qu'on ait d'autres produits comme le nôtre. Ensuite, il y a deux injections, et ça c'est compliqué pour les éleveurs. Il faut être deux personnes pour le faire. Nous, on est en train de développer un produit qui se fera en une injection, et une seule personne pourra l'injecter. Et donc forcément, si on est seul à injecter un porc, on a moins de risques de s'auto-injecter ou d'injecter son collègue. Et enfin, c'est un vaccin dans lequel il y a l'hormone dans le vaccin, et donc c'est pas bon pour la communication, et beaucoup de gens autour de ce produit disent que c'est une hormone, ce qui est pas vrai du tout. Et nous, en fait, c'est pas une hormone, c'est une protéine qui va bloquer l'hormone.
En France, l'élevage porcin, ça concerne 10 000 éleveurs. Est-ce que vous êtes en lien avec certains de ces éleveurs-là pour développer cette biotechnologie?
Alors nous, on n'est pas forcément en lien directement avec les éleveurs, mais on travaille avec l'Institut du Porc, l'IFIP, depuis le début du projet, des chercheurs de l'INRA. Et dans nos actionnaires, on a le groupe Cristal, qui est le principal groupe de vétérinaires ruraux en France, et qui est en contact direct avec les éleveurs. Et donc qui nous a suivis sur ce projet pour favoriser et accélérer la mise sur le marché de ce produit.
Concrètement, est-ce que vous imaginez dans un futur proche ou un futur lointain l'aboutissement de vos recherches?
Oui, alors nous, on a un business model qui ne vise pas à forcément devenir l'entreprise qui va commercialiser le produit. Donc l'idée, nous, c'est d'aller démontrer des choses qui sont simples à comprendre, c'est-à-dire de montrer que le produit est efficace, qu'il est sécurisé pour l'animal et surtout qu'il ne coûte pas cher à produire, pour que l'éleveur puisse l'utiliser dans de bonnes conditions et valoriser la viande. Donc nous, on va aller jusqu'à ces étapes-là, qui sont en fait le premier essai clinique chez le porc et le début de l'industrialisation, de la bioproduction de la molécule. Et ensuite, on va s'associer avec un grand laboratoire vétérinaire qui fera la suite du développement, donc tous les essais cliniques, la bioproduction à large échelle, qui enregistrera le produit en Europe d'abord, et puis au Brésil, qui est aussi un gros marché, et qui le vendra dans tous les pays du monde dans lesquels on produit des porcs.
au-delà de cette biotechnologie qui concerne les porcs, est-ce que vous avez d'autres aspirations qui concerneraient par exemple des animaux de compagnie?
Oui, alors on veut adapter ce produit aux animaux de compagnie. L'enjeu est pas le même et la faisabilité du projet est plus compliquée. Mais on a des idées et on travaille là-dessus en parallèle. Notre objectif, ça reste le porc, parce qu'il y a une vraie urgence. Il y a aussi un marché associé. On voit le produit américain, il fait un chiffre d'affaires très intéressant. Donc on peut aller chercher ce marché, plus un nouveau marché qui va s'ouvrir. Et d'autre côté, pour les chiens, il y a un besoin propriétaire. Aujourd'hui, on dit que les propriétaires de chiens sont les parents de leurs animaux, comme on dit en anglais, les pet parents. Et ils feraient pas une castration, ils disent, ils feraient pas une castration à leur enfant, donc ils font pas une castration à leur chien. Et donc cette tendance tend à arriver ici en Europe. Et il y a un autre aspect qui est l'aspect public. Les trois quarts des chiens dans le monde sont des animaux errants et il y a un besoin de contrôler les populations pour protéger l'homme, par exemple de morsures, de transmission de la rage, ou de protéger les autres espèces animales, parce que des animaux errants, que ce soit les chiens ou les chats, sont des animaux qui portent atteinte à leur environnement.
Au-delà du développement de cette biotechnologie, est-ce qu'il y a en vous quelque chose qui relève du niveau des valeurs pour être allé plus loin, pour avoir commencé cette entreprise-là?
Ben oui, en fait, enfin, c'était peut-être plus fort que moi, mais je pouvais pas agir par ambition personnelle. Ce sujet, il était trop important et ça a été le hasard de la vie. Il est venu plusieurs fois sur mon chemin et là, je sentais que cette technologie qu'on veut développer, on pouvait en faire quelque chose. Et il a fallu prendre le risque hein, de partir tout seul, mais ça me semblait nécessaire. Et au-delà de ça, et ça je le dis souvent, même si ça peut porter à des moqueries de certaines de mes collègues, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une démarche initiatique et d'amélioration de soi et d'amélioration de l'humanité en général. Améliorer la condition animale, ça permet aussi d'améliorer la condition humaine. Et là, vraiment, c'est un projet où on doit agir de manière humaine avec les porcelets, mais aussi protéger la planète de toutes sortes de façons. Donc ici, ce projet-là, on protège les animaux, mais on protège aussi les hommes avec cette... Ces porcs-là, comme la façon dont ils vont être castrés, ils vont consommer moins d'aliments, ils vont rejeter moins de nitrates dans l'atmosphère, par exemple. Et cet aspect-là aussi sur les animaux de compagnie, où aujourd'hui, la meilleure façon de contrôler les populations, on la connaît, c'est d'attraper les animaux et de les euthanasier. Je pense que c'est une meilleure solution de stériliser les animaux pour contrôler la population et en même temps protéger la biosphère. Parce que j'entends souvent qu'il n'y a que les hommes qui sont capables de détruire leur environnement. Malheureusement, il y a aussi les chiens et les chats.
Et donc, il n'y a aucun risque au niveau de l'injection du porc, il n'y a aucun risque de transmission, ça vous le maintenez au niveau de l'homme.
Alors, ça, je sais que c'est un gros sujet. Même pour le produit concurrent de Zoétis, c'est vrai que quand on dit qu'on se l'injecte, on va générer une stérilisation. Mais même si c'est vrai, celle-ci, elle va être très temporaire. Mais ils ont développé des produits, enfin, pardon, des produits, des appareils qu'on utilisera aussi pour protéger l'utilisateur. C'est un appareil qui va reconnaître la peau du cochon et pas la peau de l'homme. Donc ça, on pourra l'utiliser, mais nous, on ajoute une deuxième sécurité. En fait, ce type d'immunothérapie ont un gros inconvénient, c'est qu'ils sont éliminés très rapidement du sang, et donc on doit ajouter quelque chose pour le maintenir dans le sang. Et donc nous, on a développé cette technologie pour qu'elle soit espèce spécifique. Donc ça a l'avantage que si l'homme se l'auto-injecte, il ne risque rien. Par contre, ça a comme inconvénient, c'est qu'il faut en adopter une aussi pour le chien, aussi pour le chat, et donc il faut faire des produits différents pour chaque animal.
Et comment ça se passe? Comment vous travaillez? J'imagine que là, vous êtes ici chez vous, mais vous avez probablement un laboratoire où vous travaillez pour développer ça?
C'est vrai que nous, on travaille beaucoup à distance et beaucoup en sous-traitance. On a un partenaire qui s'appelle 272 Bio, qui est basé en Angleterre et en Belgique, avec qui on travaille depuis le début, qui a des labos pour tester les les produits pour voir s'ils fonctionnent et des labos pour produire aussi ces produits. Et nous, on travaille avec en fait ce qu'on appelle des fermes expérimentales ou des centres qui utilisent des animaux dédiés à la recherche. Et donc, on sous-traite tout. Mais on a nos compétences en interne. Je travaille avec j'ai deux salariés qui sont vétérinaires et issus de la recherche pour coordonner ces différents projets.
Est-ce que vous avez des projets futurs ?
Oui, alors il y a un autre projet qu'on aimerait lancer, toujours avec mes partenaires, sur des alternatives aux antibiotiques pour les animaux de rente. Ça correspond vraiment aux valeurs que moi j'ai au départ en créant cette société, mais aussi de mes actionnaires, et particulièrement le groupe Cristal, qui défend eux-mêmes un projet qui s'appelle Alterbiotique, qui est une alternative. Favoriser le développement des alternatives aux antibiotiques.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour que les auditeurs comprennent bien votre travail, un peu mieux de quoi on a parlé aujourd'hui ?
C'est toujours un peu difficile. C'est vrai que c'est... Là, on est vraiment dans le dur, dans quelque chose qui est vraiment spécifique. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui travaillent, mais il y a un vrai besoin pour le futur de la planète, des hommes et des animaux. Et tout ce concept qu'on appelle One Health, une seule santé, nous, on s'inscrit dedans, mais évidemment, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut qu'on reste raisonnable et on fait projet par projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'axe sur le porc où il y a un vrai besoin. On fera le chien dans un deuxième temps. On y travaille, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Et je pense que l'approche d'y aller petit à petit, amener des succès petit à petit, c'est une des façons de faire pour y arriver. Et le rôle des startups en vétérinaire, c'est d'apporter de l'innovation, montrer que ces innovations sont robustes et ensuite d'aller les proposer aux grands groupes qui, eux, pourront ensuite les développer et les mettre à disposition des éleveurs et des vétérinaires. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui est très spécifique, qui est très risqué, qui est par contre très enthousiasmant, mais qui est très nécessaire dans la chaîne de valeur vétérinaire. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de startups dans ces domaines-là, et il ne faut pas hésiter à se lancer, même si ça paraît compliqué, et même si ça fait un peu peur.
Merci Romain.
Chemin de traverse.
Pour réécouter le podcast, rendez-vous sur le site internet de RLP.